Première chose, avant toute chose, déjà, merci au Club Agile Normandie. Merci pour l'événement le Printemps Agile. Gros merci aux sponsors. Je ne sais pas si vous savez, mais sans les sponsors, là, il n'y a rien. Juste rien. Donc, les gens, ils participent avec du temps et avec de l'argent. Et c'est vraiment, vraiment très agréable de pouvoir faire des trucs comme ça grâce à eux. Tout cela en priorité. Cela un petit peu moins, mais quand même, quand même. Chacun participe à hauteur de ses moyens. Et maintenant, bonjour tout le monde. Voilà. Je m'appelle Simon. Il reste une petite place devant. On y va. J'en suis à la slide où je dis bonjour, donc ça va. Discrétion assurée. Je m'appelle Simon. Je suis product owner. Et je veux vous parler un petit peu de ma transition. Alors pourquoi tout ça? Faut savoir déjà que j'ai un espèce de syndrome de l'imposteur à parler de moi parce que j'ai pas envie de donner de leçons à qui que ce soit là. J'ai juste envie de partager mon expérience. Il m'est arrivé un truc et je me suis dit, tiens, ça serait intéressant que je le partage. Peut-être que ça va arriver à d'autres cette même transition et peut-être que vous êtes dans la première phase ou dans la deuxième phase ou peut-être que vous savez pas. J'étais Scrum Master. Je vais mettre la petite timeline, ça va représenter un petit peu plus ce que j'ai fait. J'ai commencé 2012, j'étais développeur. Donc c'est cool, on fait du code, c'est la fête. En 2013, je commence les premières formations à l'agilité. 2014, j'accroche complètement, je deviens Scrum Master. Et ce, pendant tout un tas de trucs. À partir de Scrum Master, je commence à faire des formations de Scrum Master, des formations de Product Owner, des formations à Agile Fundamentals, des choses comme ça. On me donne un titre de coach Agile. À l'époque, j'étais tout content de l'avoir. Avec du recul, je me dis, bon, ça ne changeait pas grand-chose à ce que je faisais finalement. C'était cool. Et j'avais l'impression d'avoir une vraie progression. Et en 2022, paf, j'ai arrêté tout ça. J'ai arrêté le dev. Ah oui, parce que je continuais à dev encore un petit peu. J'aime bien ça. J'ai arrêté de faire du Scrum Master. J'ai arrêté le coaching agile. J'ai arrêté les formations. Et je fais plus que Product Owner. Donc, transition. Donc, que vous soyez là, que vous soyez Scrum Master, développeur, formateur, coach agile ou Product Owner, je pense qu'il y a de quoi prendre là-dedans. Mais en aucun cas, c'est une leçon que je veux donner ou quoi que ce soit. C'est, je veux juste partager un petit peu mon expérience, ce que j'ai vécu. Et y a des choses qui sont un petit peu intéressantes. Quand j'étais Scrum Master, un des boulots du Scrum Master, c'est de coacher un petit peu le Product Owner. Donc, je me suis approché des Product Owners de très, 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 très près. Et il y a beaucoup de Scrum Master qui coachent énormément l'équipe de dev et très peu le Product Owner. Oui, bon, bah lui, c'est ce qu'il fait, etc. Et moi, c'était l'inverse. Mais je considérais que les développeurs, généralement, ils savaient bien ce qu'ils faisaient. Et le product owner, on l'avait lâché un petit peu là-dedans. C'est-à-dire que, oui, bon, bah, toi, t'as qu'à devenir product owner. Maintenant, tu étais chef de projet, mais c'est pas grave, deviens product owner et ça va le faire. Et je passais énormément de temps à coacher les product owners. Genre, beaucoup plus que la moyenne. À quel point qu'il y a des gens qui me disent, mais arrête de me coller au basque comme ça tout le temps. C'était trop invasif parfois. Mais vraiment, c'était mon cheval de bataille des product owners parce que je croyais qu'il y avait un problème à cet endroit-là. Et j'ai continué ça, vraiment, ce focus product owner. Et en 2022, je me suis dit, putain, mince, pardon, j'en ai marre, je vais essayer moi-même. Parce qu'à force d'essayer de coacher les gens pour qu'ils fassent bien, je me suis dit, bah, je vais le faire moi, comme ça sera bien fait. Donc avant, je mets une petite métaphore que je vais réutiliser, un petit fil rouge, j'étais un peu comme ça. Alors, pas aussi beau gosse que lui, hein. Ça, je sais pas si vous voyez, c'est Indiana Jones, mais quand il enseigne à l'université. Vous savez, Indiana Jones, il a un peu deux facettes. Il enseigne à l'université, donne un cours, tout ça, machin. Ça, c'était moi avant ça. Et après, Indiana Jones, quand il va sur le terrain, il est un peu comme ça. Et le chapeau, le fouet, c'est plus le même. Et ben, je me suis un peu identifié à ça. Avant, j'enseignais, j'essayais de coacher, je faisais des formations. Et maintenant, je suis sur le terrain. Vraiment, dans les tranchées, quoi. Et cette image, je me suis dit, tiens, ça, c'est moi qui languis sur le poste de product owner. Ha! Et puis au final, bah, on y va, on le prend, et là je l'ai dans les mains. Je suis product owner maintenant. Alors tout au long, je réutilise ces deux petits bonhommes-là. C'est le Indiana Jones un petit peu enseignant et un petit peu théorique de mon moi de c'était il y a 2 ans à peu près cette transition. Et là, c'est le Indiana Jones vraiment, on y va sur le terrain, quoi. Ok? Ça va pour tout le monde? Eh bien, je commence alors. Première chose, il y a 2 ans, quand je coachais mes product owners, je leur disais, attention, vous avez un backlog à gérer. Si vous mettez plus de 100 machins là-dedans, ça sera le bordel. Vous imaginez 100 éléments dans un backlog? Donc, votre boulot, c'est de le prioriser, de les mettre dans le bon ordre pour arriver à délivrer un max de valeur métier, etc. quand même. Et là, il y a 100 éléments. Donc, même de mémoire, vous êtes incapable de les lister. OK, ils sont dans un outil, vous êtes incapable d'avoir la vision sur 100 éléments d'un coup. Moi, j'aimais bien leur dire au product owner, pas plus de 36 choses à la fois. Donc, dans votre backlog, il devrait y avoir 36 trucs. Point. Il peut y en avoir des gros, il peut y en avoir des petits, mais 36, quoi. Et si vous dépassez les 100, bon, bah là, faut prendre une mitraillette et faut en dégager. Parce que là-dedans, dans ces 100, c'est sûr, c'est certain, il y en a que vous ne ferez jamais. Donc, à quoi bon polluer un backlog avec des trucs que vous ne ferez jamais? C'est vrai, quoi. Imaginez, vous en faites quoi? 10, allez, on est sympa, 15, toutes les 3 semaines? Il vous foutra combien de semaines pour arriver au centième? Truc qui sera fait dans 8 mois. Et moi, je suis pas devin, mais je vous dis que dans 8 mois, vous ferez pas ce que vous avez prévu que vous feriez aujourd'hui dans 8 mois. Ça, c'est mort. Ça arrive jamais. Vous pouvez pas prévoir 8 mois à l'avance. C'est pas possible. Donc, un backlog de plus de 100 éléments, ça sert à rien. Vous arrêtez ça. J'étais très d'accord avec ça. Et ça, c'est mon backlog aujourd'hui. Là, j'ai commencé là. Là, on est là. Et le chiffre ici, là? 300. 300, c'est le moment où vous faites à où, à où, à où. 300. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je ne sais pas si vous voyez, à un moment donné, là, à peu près ici, là, janvier 2023, j'ai dépassé les 100. Et je m'en suis rendu compte, j'ai pris une mitraillette, j'en ai enlevé plein. Et pouf, c'est revenu 2 mois après. Et il y a une espèce de scission ici, là, en septembre, où ça a augmenté très, 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 très fort. En fait, je me suis aperçu que, oui, il y a quand même un pourquoi là-dedans. C'est-à-dire que maintenant, j'assume un petit peu ce truc-là. Je me dis, non, j'en ai pas 100, mais je sais ce que je risque, et je sais pourquoi je le fais. Ce qui se passe, c'est que j'ai ouvert mon backlog directement aux utilisateurs. C'est-à-dire que, plutôt qu'ils me disent un truc, et que moi, je le remarque dans le backlog, je leur donne le backlog et je leur dis, allez-y, marquez-le dedans. Ça, c'est la liste des trucs qu'il y a à faire. OK? Et bien, vous le prenez, vous marquez votre truc que vous avez envie que ça se fasse là-dedans. Et je vous mets un petit template, comme ça, vous le faites vous-même. Et à partir du moment où j'ai ouvert ça aux utilisateurs, ça a énormément grandi. Alors, il y a plein de doublons, il y a plein de trucs, mais moi, ça me fait moins de transcription. Et les gens, ils marquent ce qu'ils ont envie, ils ont l'impression de vraiment participer à la création du truc. Mais vraiment, ils ont vraiment l'impression de co-créer parce que c'est eux qui écrivent ce qu'on doit faire. Et ça, c'est super intéressant. Et du coup, je me suis dit, eh ben, cette règle de 100, je la dégomme, mais en contrepartie, je gagne quelque chose. Et je gagne quelque chose qui, je pense, est encore plus intéressant que juste avoir un backlog où, oui, il y a des doublons et oui, c'est un peu le bordel. Et des fois, pour m'y retrouver, ben, c'est compliqué parce qu'il y a 300 machins dedans. Il y a un autre truc aussi, c'est que je découpe très petit. Genre très très petit, en 3 semaines, on fait à peu près 60-70 tickets. Donc en vrai, pour arriver à 300, bah, il me faut quand même 8 mois, mais c'est un petit peu la même échelle que si on en fait 5 par semaine versus 100. Bah, là, on en fait 20-25 par semaine, donc pour arriver à 300. J'ai multiplié l'échelle de grandeur. Mais c'est vrai qu'à 300 éléments, il y a des trucs que je maîtrise pas. Mais ça m'oblige de temps en temps à faire un petit peu de. Comment ça s'appelle? Refinement? Mais tout seul, en fait. Juste de prendre le backlog, l'épurer, le passer dans une passoire un peu. Et puis enlever les trucs que je veux pas, les doublons, etc. Voilà, ça c'était le premier point. Vous allez voir, je vais y aller un petit peu crescendo, hein. Ça, c'était tranquille. Oui, il y a trop d'éléments dans le backlog. C'est pas bien grave. Deuxième chose que je répétais là, vous êtes product owner, dans votre backlog, vous allez avoir suffisamment de détails, quoi. Le truc qu'on va faire demain, là, bah, mettez un petit pavé dessus, quoi. Expliquez. Parce que c'est important. Sinon, comme ça, n'importe qui peut le prendre, travailler dessus et on y va. Et maintenant, aujourd'hui, moi, mes tickets, alors c'est des petits screenshots de Jira. Je sais pas si vous voyez là, dans la description, il n'y a rien. Rien du tout. Là, c'est marqué études. Là, c'est marqué flux, machin chose. C'est tout. Pourquoi je fais ça? En fait, je le fais volontairement. Parce que j'ai pas envie d'écrire des spécifications. J'ai envie de raconter l'histoire. J'ai pas envie que les développeurs, ils lisent les specs. J'ai envie de leur raconter de vive voix. J'ai pas envie qu'ils lisent le truc parce qu'ils vont l'interpréter mal. J'ai envie qu'ils se mettent à côté de moi, qu'on regarde ensemble le truc sur le même écran et qu'on discute jusqu'à ce que je sente qu'ils aient bien compris. Dans mon équipe, il y a que 5 personnes, plus moi, ça fait 6. J'ai le temps de faire ça avec tout le monde. Et on se pose et on regarde ensemble. Et j'ai vraiment, vraiment pas envie de leur écrire une liste de machins. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'une fois que c'est fait, ben on écrit comment ça marche, on fait les petits schémas, etc. Quand on est ensemble, on gribouille, on prend un tableau blanc, on prend en photo le tableau blanc. Ça servira de documentation après s'il y a besoin. Mais en fait, dans les spécifications, je mets quasiment rien. Juste de quoi, moi, m'en souvenir. Donc là, je perds quelque chose. Je perds le détail directement. Et si demain, eh ben, moi, je tombe malade et je me casse une patte, eh ben, c'est vachement dangereux ce truc-là. Parce qu'il n'y a que moi qui sais ce que c'est que ça. Donc oui, c'est dangereux, mais d'un autre côté, ça force tout le monde à avoir une discussion. Et je trouve qu'en discutant à propos de ce qu'il y a à faire, ça va beaucoup mieux que si c'est juste écrit et ensuite on lit. Il y a plein d'erreurs d'interprétation. Depuis que je fais ça, on passe les choses en fait. On les passe aux gens, on leur explique, ils comprennent. Et du moment qu'on est aligné sur la compréhension, peu importe ce que le développeur derrière il va faire, peu importe ce que les développeurs, l'équipe, tout le monde va créer. Et ben ça va correspondre avec ce qu'ils avaient compris. Et je suis sûr qu'ils ont compris parce que je leur ai expliqué de vive voix. Donc ça, super chouette. Je continue sur le backlog. J'en ai un autre là. J'expliquais toujours au product owner, dans votre backlog là, les éléments qui sont en haut, ils doivent être tout petits et bien détaillés. Et puis en bas, il doit y avoir des gros pavés. Ok, oui, bon, bah ça, c'est pour plus tard. Normal, parce que plus je m'approche du truc, plus on va le découper finement. Tout ça pour que la semaine prochaine, ce qu'on va commencer, ou dans 2 semaines, eh ben, ce soit bien détaillé, bien découpé, bien séquencé, que tout le monde ait déjà une petite compréhension du truc. C'est logique, en fait. C'est imparable comme argument. Comment on pourrait aller contre un truc comme ça? Bon, bah là, le terrain a fait ses preuves aussi. Mon backlog, c'est plus un enchevêtrement de petits, de gros, de moyens trucs, c'est le bazar. C'est le bazar. C'est le bazar parce que j'ai des gens qui écrivent, c'est pas moi, directement dans le backlog, et puis ça fait des tailles complètement différentes, ça arrive à n'importe quel moment. Et je me suis aperçu d'un autre truc aussi, c'est que très régulièrement, on a un, comment ça s'appelle? Un processus qui nous amène à avoir un bordel comme ça. J'ai un gros truc à faire. Voilà, il faut faire ça, mais on sait que c'est gros. De toute façon, on va falloir le découper. Et on ne sait pas vraiment comment le faire. On a juste un objectif à atteindre. Donc, on fait un plan au sens, on va planifier, découper, ordonnancer. On découpe tout, on ordonnance, tout bien. Donc, le gros pavé se transforme en plein de petits carrés. Et puis, en cours de route, on se dit, ah, mais en fait, pour arriver à la même solution, enfin, au même résultat, il y a peut-être une autre solution. Plus simple. En fait, on peut se dire, ben, on peut faire ça dans un premier temps, puis on fera ça après. Parce que ça, on en a besoin tout de suite, puis ça, pas sûr, pas sûr. Eh bien, quand vous faites ça, vous faites quoi? Alors, je crois que j'avais fait un petit workflow. Vous prenez votre petit découpage, il y a 3 cases qui vont en haut, et le reste va en bas du backlog. Et voilà comment vous arrivez à créer un bordel. Répétez l'opération 10 fois et vous aurez plein de petits morceaux de fin de trucs qui ne sont pas terminés en fait, qui sont en bas du backlog parce qu'il n'y a pas besoin de terminer. En fait, il n'y a pas besoin d'aller dans ce niveau de complétion-là. L'essentiel de la valeur est acquise, je passe à la suivante. Mais c'est vrai que si on voulait, voilà, on fait les 80%, là, le fameux Pareto, on prend 20% de l'effort, on a 80% des résultats. Les 20% derniers, là, on avait tout découpé, on avait fait un super plan. Eh ben, on le fout en bas du backlog, on le fera probablement pas, mais peut-être. Puis on avait bossé dessus, donc c'est dur de le jeter quand même. C'est dur de le jeter ce plan-là. Donc on va le garder. Répétez cette opération-là 10aine de fois et vous avez un joyeux bordel dans votre backlog. Il y a des gros, des petits, des moyens, des trucs dans tous les sens. Multipliez ça par 300 éléments et oui, ok, le backlog est un petit peu bordélique. Néanmoins, aujourd'hui, avec du recul, c'est-à-dire que ça, c'est pas la théorie, quoi. Mais ça me va. Et, chose intéressante, je sais ce que je risque. C'est-à-dire que je suis pas allé directement là-dedans. Je suis d'abord passé par quelque chose que moi je considérais comme juste et j'ai dérivé petit à petit par la pratique. C'est la pratique qui m'a amené à dériver. Et je connais la théorie. Je l'enseignais la théorie, je la coachais la théorie. Mais là, par la pratique, je m'amène à trouver des solutions différentes de ce que j'enseignais. Et après, si vous prenez, comment ça s'appelle ? Quand on parle de Scrum, là, si vous prenez le Scrum Guide, ce conseil de dire les plus petits éléments en haut, les plus gros en bas, il n'est pas écrit hein, nulle part. Ça, c'est quelque chose qui avait été théorisé et que moi, j'enseignais. Mais qui l'a théorisé ? Bah, quelqu'un qui pratiquait, mais peut-être quelqu'un qui pratiquait différemment de moi. Donc, en fait, tout ça, on peut le remettre en question. En fait. On peut le remettre en question. Il n'y a pas de souci. On continue ? Bon, un peu plus chaud, celui-là. Ça, c'est le numéro 1. Ça. On commence toujours par ce qui a le plus de valeur métier. C'est-à-dire que là, on a l'éventail des possibilités devant nous, on commence un nouveau truc, c'est chouette, on a une super équipe, on a des super besoins. Et là, on sélectionne dans les besoins, on dit ça a de la valeur. Ça va nous faire gagner du temps, ça va nous faire gagner de l'argent, ça va nous faire gagner plein de choses, de la qualité, de la performance. Donc, il faut commencer par ça. C'est toujours celui qui a le plus de valeur. Donc, la valeur, c'est assez subjectif comme notion, cette valeur. Donc, il faut la juger. C'est là, le product owner, qu'on a besoin de son intelligence. Donc, on va le solliciter là-dessus. Dire, ben, c'est à toi, product owner, c'est ta responsabilité de choisir parmi tout ce qu'il y a à faire, ce qui a le plus de valeur, et de commencer par ça. Et dès que tu l'as fini, eh ben, tu prends le suivant qui a le plus de valeur, et tu continues. Et ça, c'est la base. Mais ça, c'est impossible d'aller à l'inverse de ça. Parce que si on ne fait pas ça, on n'est pas bon. Si on ne fait pas ça, on n'arrivera pas à récolter la valeur métier au fur et à mesure. Celui-ci, il est imparable. Pratique ou théorie, il est bon. Mais en fait, dans la vie, il y a des contraintes extérieures. Et moi, j'étais un petit peu comme ça, là. Celui qui a le plus de valeur métier à mes yeux. Et il y a les utilisateurs qui te retiennent et qui disent non, on n'est pas prêt pour celui-là. Comment ça, vous n'êtes pas prêt ? Il dit, bah là, ça fait un an et demi qu'on est en pleine transformation digitale, etc. Et j'ai une population. Un an et demi, je les ai bombardés de changements. Je leur ai changé tous leurs outils en un an et demi. On va changer ça, on va changer ça, on va changer ça. On change le process. Il dit, stop, arrête. On n'est pas prêt à encaisser de nouveaux changements. Donc ça a de la valeur métier. Ouais, mais on n'est pas prêt. Et à quoi ça sert de livrer de la valeur métier si celui derrière qui va devoir l'utiliser n'est pas prêt à l'accueillir, à la recevoir ? Donc en fait, j'ai dit d'accord. Bah d'accord. Ouais, effectivement, c'est pas le bon moment. Je vais m'asseoir sur mes principes parce qu'en fait, il y en a qui sont un petit peu plus importants que tout ça. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit le bon moment, il faut que ce soit les bonnes personnes et il y en aurait d'autres des contraintes. J'aurais pu vous sortir une contrainte du genre le chef a dit non. Mais là, si le chef a dit non, moi, je me bats. Je prends l'épée le matin et on va au duel. Et je dis non, c'est ça. Toi, le chef, t'as beau avoir ta vision de chef, c'est moi qui ai la meilleure vision pour juger ce qui a le plus de valeur. C'est moi le product owner. Ça, c'est ce qui a le plus de valeur à mes yeux. J'ai une meilleure connaissance du périmètre que toi. Donc, laisse-moi prendre la décision, s'il te plaît. On commence par ça. Hiérarchiquement, on n'aurait jamais pu me faire plier. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas pu m'imposer le truc. Vraiment, j'aurais résisté de toutes mes forces en disant « c'est moi qui choisis ». Et là, qui c'est qui m'a fait plier ? Ces deux pauvres utilisateurs en disant oh, « on en a marre des changements ». Ah bah oui, oui. Ok, bah celui-là, je ne l'ai pas vu venir. Bah, j'ai pris une claque ce jour-là et je me suis dit « ouais, en fait, mes utilisateurs là, ils sont à bout de souffle, ils n'en peuvent plus ». Donc on a changé un petit peu de truc suite à ça aussi, suite à ce retour-là. C'est-à-dire là, truc que j'ai changé, un petit peu de posture, c'était le changement permanent. C'est-à-dire que nous, on aime bien faire de l'itératif et de l'incrémental. On change des petites choses, semaine après semaine, avec un rythme continu. Mais ce que nous, on appelle rythme continu, eux, les utilisateurs, ils appelaient ça rythme effréné. C'est-à-dire que leurs outils pour faire leur métier, changeaient tous les 15 jours. Ça, c'est dur, quoi. Imaginez, vous travaillez avec Jira, il y a une mise à jour de Jira tous les 15 jours. Bon, il y a une mise à jour de Jira tous les 15 jours, certes. Mais vous voyez ce que je veux dire ? On change votre outil de travail tous les 15 jours. Donc ça, c'est compliqué, en fait. Et puis, il faut le gérer. Puis, il y a d'autres paramètres. Donc, en fait, la valeur métier, là, on dit, bah oui, il faut commencer parce qu'il y a plus de valeur métier. Bah, j'imagine que ce paramètre de disponibilité des utilisateurs, c'en est un. Mais en vrai, bah, je m'aperçois que peut-être il y en a d'autres que je ne connais pas encore. pour moi, c'est juste la hiérarchie, c'en est pas un. Voilà. Le pouvoir hiérarchique de dire non, c'est moi qui choisis, c'est pas toi. Toi, t'es mon salarié, t'es mon prestataire, donc c'est moi qui te dis quoi faire. Là, celui-là, moi, j'accepte pas trop. Néanmoins, je pense qu'il y en a plein d'autres, des moyens de dire bah, en fait, non, dans ce cas-là, ce qui a le plus de valeur métier, bah, on va pas commencer par ça. On va faire autre chose. On va faire autre chose qui va impacter personne d'un point de vue fonctionnel. On va pas changer le visuel des outils. On va aller changer des flux qui alimentent automatiquement des données. Comme ça, vous aurez rien à faire. Puis il y aura des trucs en plus. Voilà. On va faire plaisir aux utilisateurs aussi un petit peu de temps en temps. Et puis, ben voilà, j'ai ouvert les yeux. Je me suis dit peut-être que ça, c'en est un. Il y en a peut-être 5, 10, 20 autres qui pourraient me faire changer d'avis. Et tout ça n'est pas immuable. Tout ça n'est pas immuable. Ah oui, j'avais marqué. Encore faut-il que ce soit le bon moment. Et un autre truc aussi. La valeur métier, je le disais au début, c'est subjectif. Ce qui a le plus de valeur métier à mes yeux, n'est pas forcément ce qui a le plus de valeur métier aux yeux des utilisateurs, des chefs, du management, de tout l'écosystème là. Cette notion de valeur métier, elle est vraiment subjective. Donc c'est compliqué. Le mieux, c'est de se mettre d'accord, en fait. De se dire, bah, moi, je pense ça. Et puis, on fait une super réunion, comme on aime les faire. On met tout le monde autour de la table. Et le but du jeu, c'est de se mettre d'accord sur un truc. Ce qui est chouette, c'est de ne pas avoir de table pour ce genre de réunion. On se met d'accord, mais de manière plus sympathique. On se met devant un tableau avec des post-it ou un truc comme ça. C'est plus facile de se mettre d'accord. C'est beaucoup plus facile. OK. Je continue. Crescendo, hein. Oups. Ça, c'est quelque chose que je disais très, 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 très fort. Une roadmap, c'est pas un planning. Une roadmap, c'est un plan. Et après, je leur ai dit, une roadmap, c'est pas un planning. Une roadmap, c'est pas un planning. Une roadmap, c'est pas un planning. Voilà. Parce que, je sais pas si vous voyez le truc, mais généralement, vous êtes product owner, on vous demande une roadmap. Roadmap à 3 mois, roadmap à 6 mois. Où est-ce que tu vas ? Oui, c'est important de savoir où est-ce qu'on va. Et généralement, on dit, ouais, ça serait bien que tu ailles là. Alors là, dans l'idéal, quand on vous dit, il faut que tu ailles là, on ne veut pas que ça, ce soit une solution. On veut que ce soit un besoin. Très différent. On a besoin de ça, il faut que tu gères ce besoin-là. OK, je vais gérer ce besoin-là d'ici 3 mois. Et donc là, on vous dit, bah, donne-moi ta roadmap. Ah, parce qu'il y a ce besoin-là, puis ce besoin-là, puis ce besoin-là, puis celui-là en parallèle, etc. Donc du coup, bah, il y a plein de trucs en parallèle. Et l'erreur à ne pas faire, c'est d'essayer de caler ça dans un planning. Si vous mettez ça dans un planning, premier imprévu, il faut tout décaler. Et si vous décalez tout au premier imprévu, toutes les semaines, il y a des imprévus, vous allez décaler ça toutes les semaines. Mais en fait, tous les jours, il y a des imprévus, ça se trouve. Mais des bons, des mauvais, et puis ça va osciller. Et en vrai, vous pouvez passer toute votre vie à mettre à jour ce planning tous les jours. Il y a des gens qui font ça, c'est leur métier. Dans l'informatique, de moins en moins, mais si vous allez sur un chantier de construction navale, j'ai eu l'occasion de l'avoir, ils ont un planning au Pouillem avec tel mec va mettre tel boulon tel jour. Okay. Et dès qu'il y a un imprévu, bah, tout le planning décale. Donc ils ont un super bouton pour faire coulisser tout le planning d'un coup. Mais n'empêche que ça coulisse pas exactement tout le planning, il faut ajuster. Il y a un mec qui passe sa vie à faire ça pour gagner en prédictibilité. Parce qu'on a besoin de cette prédictibilité. Parce que derrière, quand on travaille avec du physique, on a des commandes de matériel, on a des intérimaires, mais nous, on n'a pas toutes ces contraintes. Donc j'aurais dit, arrêtez de me mettre ça sur un planning. Ce qu'on veut, c'est un plan. C'est quoi un plan ? Là, imaginez, vous allez cambrioler une banque, ok, vous faites un plan. Mais dans le plan, vous n'allez pas dire à 16h03, je lui demande d'ouvrir le coffre, à 16h04, elle me l'aura ouvert. Vous savez pas combien de temps ça va prendre, cette histoire. Vous savez juste l'ordonnancement des tâches. Et vous essayez de parer à toute éventualité. Et planifier, c'est ça, planifier. Le boulot du product owner, c'est de planifier. Mais planifier, c'est pas faire un planning. Planifier, c'est faire un plan. Donc faites-moi un plan. Juste l'éventail de toutes les possibilités et l'ordonnancement des tâches. De dire, je fais ça, puis je fais ça, puis je fais ça, puis je fais ça, et quand vous arrivez au milieu du plan, bah vous pouvez le décortiquer, et puis là, ce qui est sympa, c'est que vous pouvez inviter l'équipe, et décortiquer la prochaine étape du plan en disant bah, la prochaine étape du plan, c'est qu'on arrive à couvrir ce besoin-là. Moi, j'avais pensé une solution comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment on pourrait atteindre 80% des résultats avec que 20% de l'effort? Et toute cette discussion-là, ça s'appelle un sprint planning en vrai. C'est là où on va créer un plan, pas un planning. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est pas le plan, c'est la planification. C'est cette étape où on va discuter. Je crois que c'est Eisenhower qui disait « Les plans, ça sert à rien. » Ce qui est le plus important, c'est la planification. C'est là qu'on va découvrir des nouvelles façons, plus optimisées, plus performantes, d'atteindre les résultats. Et l'étape de planification, elle est super importante. Mais mettre ça dans un planning avec des dates, là, vous allez droit à la catastrophe. Ça tiendra jamais. Et ça tiendra vraiment jamais. Vous allez passer le temps à mettre à jour. Je vous donne 5 secondes de méditation là-dessus. Bon, à votre avis, il ressemble à quoi ma roadmap aujourd'hui? Un planning! Ça, c'est ma roadmap. Alors, c'est un peu le bazar. Vous voyez, il y a plein de trucs en même temps. Et là, en plus, on n'est que 5. Alors, c'est assez détaillé, quoi. C'est-à-dire 5 personnes pour faire toutes ces petites boîtes-là. Les traits rouges, c'est toutes les 3 semaines. Donc, on a combien de semaines, là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois 6, 42 semaines. 9 mois. Donc là, il y a 9 mois de travail. Je sais que ça, ça ne va jamais tenir. On ne sera jamais bon. C'est vraiment un gant, quoi. C'est le truc qui m'horripile au plus haut niveau. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai mis ça dans un planning? Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas autrement que par un planning. C'est juste ça. Et alors au début, j'en étais dépité. Et maintenant, je comprends, en fait. C'est-à-dire que moi, je discute avec mon langage, avec des équipes. On est tous dans le même mindset. Mais les comptes que je dois rendre à un directeur administratif et financier qui est un ancien comptable, lui, il comprend pas là que je fasse un plan. Il dit, ben non, faut que tu me fasses un calendrier. Sinon, je peux pas prévoir quand est-ce que je dois former mes équipes, moi. Je suis pas sûr, on n'a qu'à donner une fourchette, à peu près. Il dit, non, ben non, parce que faut que je fasse venir un intervenant, faut que je réserve du temps, faut que je décale ma clôture comptable. Il me faut une date. Et il me la faut 6 mois à l'avance. Ah! Ok. Comment vous faites là? On est un peu coincé. C'est-à-dire que je fais un truc pour des comptables, et les comptables, il faut les prévenir 6 mois à l'avance. Sinon, c'est mort. Ils posent leur congé 6 mois à l'avance, ils prévoient les clôtures comptables 6 mois à l'avance, leur agenda aux comptables, ils sont bookés 6 mois à l'avance. Mais nous, on ne sait pas où on sera dans 6 mois. Ça se trouve, ce sera bon, ça se trouve, ce sera pas bon. Mais c'est maintenant qu'il faut donner la date. Bon, bah. T'as qu'à faire ça. Hein. J'ai pas trouvé mieux. J'ai pas trouvé mieux. Et. Au final, avec du recul, l'exercice, c'est intéressant. L'exercice d'essayer de mettre ça dans un planning avec des dates, on se dit, bah, c'est cool. Le problème, c'est que pour faire ça, il faut estimer un petit peu tout. Et perso, j'ai jamais été très fan des estimations. Quand j'étais développeur, je trouvais ça pas très fiable. Tout début, on estimait ça en jour homme. Moi, on me demandait, bah, combien tu mets de temps pour faire ça? À 2 jours. Okay. Et puis, c'est pas moi qui le faisais, c'était quelqu'un d'autre qui était bien meilleur que moi. Et en une demi-journée, il l'avait bouclé. Ah, Simon, tu surestimes. Ah non, parce que si moi, je l'avais fait, ce truc-là, j'aurais mis 2 jours. C'est juste que lui, il est meilleur que moi. Ah. Bon, bah, pour contrer ce problème-là, on parle en complexité. Voilà. C'est-à-dire que, ben, on va dire que ça vaut 3. Et 3, c'est plus gros qu'un 2. Pour lui comme pour moi. Peu importe. Et puis après, on fait un global et tout ça, on fait des systèmes. Et j'aime bien ce système-là. Sauf que ça prend du temps. Et puis, la fiabilité, elle est pas super au rendez-vous. Et ça sert à quoi d'estimer? Ça sert à faire des trucs comme ça. Et moi, j'avais pas envie de faire des trucs comme ça. J'avais dit, bah, on estime pas. C'est pas grave. Faut juste qu'on arrive au résultat pour atteindre un objectif. C'est parti. By the book, hein, on y va. Bon, bah, au final, c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Ça tient pas. Tout ce système-là, j'ai pas réussi à le faire tenir les contraintes de une entreprise qui exige des comptes. Parce que l'informatique, ça coûte très cher. C'est-à-dire qu'on est dans des programmes, ça coûte des centaines de milliers d'euros par an. À côté de ça, ça va rapporter quoi? Ça va rapporter de l'organisation, du temps, tout ça, de la productivité pour tout le monde. Mais c'est pas facile de convaincre quelqu'un qu'on va pas estimer, on va pas lui donner de date. Donc il faut lui donner une date, donc il faut faire un planning, donc on a tout mis dans le planning. Et au final, l'exercice intéressant parce que ça permet de se projeter un petit peu, de se dire bon, là on sera à peu près là. Et ce que j'aime bien, c'est de donner des énormes marges d'erreur. Comme ça, on est sûr d'être à l'heure au rendez-vous. Parce que ça nous est arrivé une fois de ne pas être à l'heure au rendez-vous. Et puis là, tout de suite, c'est la sanction, c'est massacré, etc. C'est très inconfortable. Donc là, maintenant, je donne des fourchettes. Voilà. Je donne des fourchettes. Et en fait, ce que vous voyez là, les petites briques, ce n'est pas le délai que ça va prendre. C'est quand est-ce que tu l'auras à peu près. Je ne suis pas sûr. Donc, il y a des trucs, tu l'auras entre aujourd'hui et dans 6 mois. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas quand est-ce que tu l'auras. Et puis celui-là, tu l'auras hein, peut-être. À peu près par là. Mais je suis quasiment sûr qu'à peu près par là, on l'aura. Si on prend le truc, ça devrait le faire. Autre chose pour calculer tout ça, j'aime bien mesurer l'émergence, tout ce qui arrive en cours de route et qui n'était pas planifié au départ. C'est-à-dire qu'on se dit que... Alors, les estimations, on les fait plus en nombre de tickets de notre côté. On les fait assez petits. Tous de la même taille, comme ça on a juste à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, machin. On fait 60 tickets par sprint, à peu près. Bon, bah voilà, on en planifie une quarantaine et on voit combien surgissent au cours des 3 prochaines semaines. Bon, bah environ entre 15 et 25. Bon, bah on n'a qu'à prévoir 20 tickets d'émergence. Ces choses-là vont émerger en cours de route. C'est juste qu'on n'avait pas prévu. Ça se présente à nous, c'est important, ça vaut le coup d'être priorisé. Ok, on le fait, on est dans le jus, c'est parti. Il n'y a pas de souci. À côté de ça, si on enlève cette petite marge d'émergence, on est capable de calculer où est-ce qu'on sera dans 6 mois. Cet exercice, je le fais une fois tous les 3 mois, je le remets à jour. Hors de question de mettre ça à jour toutes les semaines et de redécaler le truc. Je dis, je vous le donne là. Cette photo, elle est valide à l'instant T avec les connaissances que j'ai maintenant. Mais dans 5 semaines, elle ne le sera probablement plus. Et dans 10 semaines, encore moins. Donc, ce que je propose, c'est que dans 10-12 semaines, on refasse l'exercice et on se reprojette et on annonce un truc. Et en autre chose, ça, c'est pas un engagement. Ça, c'est juste pour vous donner la date à laquelle il faut planifier à peu près votre intervenant pour la formation. C'est tout. C'est pas un engagement. Donc, j'ai mes conditions pour communiquer ça sous forme de planning. Il y en a qui comprennent pas exactement là où je veux en venir. C'est pas facile d'expliquer la complexité de ce qu'on fait. Et pourquoi c'est bien de changer d'avis alors qu'on avait prévu quelque chose? Et c'est là, il fait mal. Hein. Quand vous expliquez à un comptable, oui, on va changer d'avis en cours de route. On a prévu de changer d'avis parce qu'on ne sait pas tout maintenant. Donc, on a prévu un moment où on va choisir ce qu'on va faire parce qu'on n'a pas choisi encore. Et ce moment, on ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver. Et on ne sait pas encore quelles sont nos possibilités. Et on ne sait pas sur quelle partie il va arriver, mais c'est sûr, il va arriver. Et donc là, il vous regarde en mode, qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas possible. Parce que moi, je suis comptable et dans mes chiffres, c'est clair. Oui, mais nous, ça ne l'est pas. C'est complexe, l'environnement, on ne le connaît pas, on ne le maîtrise pas. Il y a des trucs qu'on n'a pas vu venir. Donc, voilà pour celui-là. Celui-là, c'est du lourd. On continue, hein, plus violent que ça. La première préoccupation doit être la satisfaction utilisateur. Vous savez d'où vient cette phrase ? C'est le manifeste agile. Il y a les 4 valeurs et il y a les 12 principes. Ça, c'est le premier principe. Le premier principe. Donc là, on est sur la base de la base de la base, quoi. La première préoccupation doit être la satisfaction utilisateur. Vous ne faites pas un logiciel pour la personne qui vous l'a commandité. Vous faites un logiciel pour ses utilisateurs. Donc en fait, si le chef il n'est pas content, mais que les utilisateurs sont contents, vous avez gagné. Donc c'est pas grave si le chef il n'est pas content. Si les utilisateurs sont pas contents, mais que le chef il est très content, vous avez perdu. Ok, vous aurez peut-être votre augmentation annuelle, mais vous avez quand même perdu la bataille. C'est pas bon de faire ça. Donc si les utilisateurs commencent à dire non, il y a un truc qui va pas, et que le chef il dit on fait comme on a prévu, vous allez là, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Et ça c'est un truc que j'enseignais, de dire arrêtez d'écouter aveuglément ce qu'on vous demande. Il faut réfléchir. C'est vous, product owner, qui avait la meilleure vision pour détecter ça. C'est vous qui êtes en première ligne. C'est-à-dire qu'il y a un sponsor, généralement. C'est quelqu'un qui va mettre des sous sur la table pour que vous et votre équipe, là, vous fassiez une réponse à un besoin. Donc lui, le sponsor, il est là, il a l'argent, il a le besoin, ou alors le besoin, il est dans ses équipes, et ça va passer par lui. Donc lui, s'il n'est pas content, vous n'êtes pas bon, parce que c'est lui qui a le porte-monnaie. Mais peu importe, parce que la première préoccupation, ça doit être la satisfaction utilisateur. C'est eux le baromètre. Si les utilisateurs sont malades, vous êtes malade. Et ça, c'est imparable. C'est dans le manifeste agile. C'est la base de tout. C'est-à-dire que peu importe le framework, peu importe tout ça, la base de l'agilité, c'est qu'on fait un logiciel pour les utilisateurs. Et là, je vous raconte une petite histoire. Il y a le sponsor du projet, il vient me voir, il me dit, bah, moi, je veux des indicateurs. Je dis, bah, ouais, c'est chouette tes indicateurs, mais pour avoir ces indicateurs-là, je manque de données. Je ne les ai pas les données. Donc, il faut qu'on rajoute un champ sur un formulaire. Et tous les utilisateurs vont devoir se taper ce truc, quoi, à répondre. Sinon, tu ne les auras pas, tes indicateurs. Donc, du coup, on va diminuer la satisfaction utilisateur parce qu'ils vont devoir renseigner un champ qui n'a aucune valeur pour eux. Aucune valeur directe, aucun retour. Ça va leur servir à que dalle. Tout ça pour que toi, tu aies ton indicateur. Non, 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 non. Et le sponsor qui dit, ouais, je comprends, mais je veux quand même les indicateurs. Et c'est moi qui paye. Et donc là, je skip une partie de l'histoire. Et à la fin, j'ai dit, d'accord. La question, c'est qu'est-ce qui m'a fait changer d'avis? Il y a bien un truc. Non. Oh, je me serais bien... Ça me dérange pas d'être viré pour un truc comme ça. Exactement. Là, ce qu'il m'a dit, là, le sponsor, il m'a dit, mais moi aussi, je suis utilisateur. Pardon ? Il dit, ben non, toi, t'es sponsor, toi, tu payes, et puis c'est eux, les utilisateurs, c'est eux qui remplissent les données. Il dit, non, 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 non. Il dit, ça, c'est un truc pour remplir des données commerciales, d'avant-vente. Il dit, mais la stratégie commerciale de l'entreprise, c'est moi qui la gère. Et pour piloter la stratégie commerciale de l'entreprise, j'ai besoin de données. Si je ne sais pas où est-ce qu'on est, comment je peux dire où est-ce qu'on va? C'est moi le capitaine qui va piloter la stratégie commerciale. Donc pour piloter la stratégie commerciale, j'ai besoin de données. Et pour récolter les données, il me faut ton logiciel. Mais je suis utilisateur de ton logiciel parce que je vais récolter les données. Et là, je me suis gratté le cerveau et je me suis dit, ouh, alors là, celui-là, je ne l'ai pas vu venir non plus. C'est-à-dire qu'en fait, les utilisateurs du projet, ce n'est pas juste les utilisateurs. C'est-à-dire que les utilisateurs, bah en fait, c'est plus large que ce qu'on pense. C'est-à-dire que les gens qui vont exploiter les données d'utilisation d'un logiciel quelconque sont aussi des utilisateurs. Et on pourrait avoir des utilisateurs qui soient d'autres logiciels, on pourrait avoir des utilisateurs qui soient partout distribués. Les chefs des mecs qui vont utiliser le logiciel sont peut-être indirectement aussi des utilisateurs. Et tout cela aussi, il faut penser à leur satisfaction. Et effectivement, pour piloter la stratégie commerciale d'une entreprise, bah, y a besoin d'indicateurs. Et pour avoir les indicateurs, bah, faut le distribuer et il faut le faire renseigner partout. Il m'a cité un super exemple et je me suis dit, ah, oh, celui-là, c'est vrai qu'il est chouette. M'a fait une métaphore, une analogie sur les comptes rendus d'activité. Vous savez, ces petits logiciels où vous devez renseigner qu'est-ce que vous avez fait quel jour. Je ne sais pas si tout le monde en entreprise, généralement, à remplir ces petites fiches de temps-là, de dire, bah, le lundi, j'ai travaillé sur tel projet, le mardi, j'ai travaillé sur tel projet, le mercredi, j'ai... Et c'est super chiant, en fait, vous, ça ne vous apporte absolument rien. Mais si on enlève ce logiciel-là, bah, la boîte, elle ne sait plus qui a bossé sur quoi. Et si on ne sait plus qui a bossé sur quoi, on ne sait plus qu'est-ce qui nous a coûté combien. C'est-à-dire que chacun des choses qu'on fait dans l'entreprise, on ne sait plus combien nous coûte. Parce qu'on ne sait pas combien de temps chacun y a passé. Et si on ne sait pas combien ça nous coûte, on ne sait pas combien le vendre. Et si on ne sait pas combien le vendre, bah, on risque de le vendre n'importe comment. Et à partir de là, une donnée de dire, bah, tiens, ces comptes rendus d'activité, c'est qui l'utilisateur? Bah, l'utilisateur principal de ces comptes rendus d'activité, c'est le contrôle de gestion, entre guillemets. C'est la stratégie de l'entreprise. C'est peut-être même le directeur qui va dire, bah, tiens, ça nous coûte tant. Et on arrive à le calculer parce que chacun s'embête. toutes les semaines à renseigner tous ces trucs qui ne servent absolument à rien à nous. Mais comme ça, on peut piloter, savoir combien ça coûte, savoir si c'est rentable, mettre des marges, etc. Enfin bref, on peut faire des super chouettes, on peut faire des super choses. Et tout ça en étant utilisateur de la solution, mais pas les utilisateurs que je pensais. Donc en fait, c'est un petit peu le même principe. Ici, je me suis complètement voilé la face sur ce que le mot « utilisateur » voulait dire. Voilà. La première préoccupation doit être la satisfaction utilisateur. Le mot utilisateur, il faut le prendre au sens charge. Et puis, c'est vrai qu'il y a bien longtemps, on faisait des choses. On commençait par dire c'est qui les utilisateurs du projet. Et on a tendance à... Enfin, en tout cas, moi, j'ai fait l'erreur de sursimplifier le truc. De se dire que les utilisateurs de ce logiciel, ça va être les gens qui utilisent ce logiciel. Mais non, voilà. Donc, pensez large. Allez-y, pensez large. Et en fait, cette erreur, je l'ai fait là, avec le mot utilisateur. Il n'est pas improbable que je l'ai fait à d'autres endroits, sur d'autres mots, de ce que j'enseignais précédemment. Je continue. Alors, celui-là, c'était une de mes favorites aussi. Ouais, j'en ai parlé plusieurs fois précédemment. C'est-à-dire que le product owner, il doit avoir les pleins pouvoirs sur la priorisation. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui a la meilleure vision de tout ça. C'est-à-dire que vous êtes sponsor, vous confiez la... Je reprends la même analogie. Vous confiez un objectif à une équipe. Il y a un product owner dans l'équipe. Mais à côté de ça, c'est vous qui allez lui dire « Ben non, faut que tu commences par là. » Non, c'est lui qui a la meilleure vision. C'est lui qui a fait les ateliers avec le métier. C'est lui qui a la vision technico-fonctionnelle. C'est lui qui a tout là-dedans. Il a la vision 360. Donc maintenant, il faut lui faire confiance. Et s'il n'y a pas cette confiance-là, eh ben on arrête tout. Ça ne sert à rien. Vous voyez le truc ? C'est impossible. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, vas-y, fais ça. Et puis ensuite, lui dire, ah, en fait, tu t'es trompé, il faut le faire différemment. Non, mais ce n'est pas toi qui as fait. Il y a des gens qui font ça, qui attendent le compte-rendu de la réunion pour dire, ah, vous n'avez pas pris la bonne décision. Mais tu n'étais pas là. Bah, viens discuter avec nous. Si tu n'es pas là, tu ne peux pas avoir tout le contexte. Donc, c'est facile après coup d'arriver en disant, oh, vous êtes trompé. Non, non, ça, c'est trop facile. C'est facile d'arriver après coup en disant, non, mais en fait, là, c'est bien vos ateliers, mais vous allez commencer par ça. Non, non, non. On a découvert. Il faut nous faire confiance, on a découvert quel était le meilleur chemin pour atteindre l'objectif, la meilleure solution. Donc maintenant, vraiment, il faut nous faire confiance. On peut discuter d'ajuster la solution, mais vraiment, celui qui prend la décision, ça doit être le product owner. C'est lui qui doit avoir le fin mot de l'histoire. Impossible que ce soit autrement. Sinon, vous biaisez tout le système. Il n'y a plus aucun intérêt à avoir une espèce de système avec un product owner. Si vous faites ça, autant avoir un cycle en V. C'est pas grave. On peut partir très loin là-dessus. Mais bon. Donc voilà. Ça, c'est quelque chose que j'enseignais et j'étais super ferme là-dedans en disant il va falloir être courageux. Parce que tenir cette position-là, des fois, c'est dur. On pourrait être viré. Mais en vrai, on a raison, bordel. Et fais-moi confiance. C'est moi qui ai fait tous les ateliers. C'est moi qui vais voir les utilisateurs. C'est moi qui vais les voir toutes les semaines. C'est moi qui vais les voir tous les jours. C'est moi qui connais l'équipe de développement. Toi, t'es où ? T'es dans ton bureau. Tu gères 12 projets à la fois. Et sur un, tu veux me donner les décisions ? Non, 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 non. C'est moi qui... Je te dis, c'est la meilleure décision. Fais-moi confiance. Avec des arguments comme ça, je vous assure, on arrive à convaincre beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et là encore, petite histoire qui m'est arrivée. Je dis, bah moi, on va commencer par ça. Et le sponsor qui dit, non, 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 ça, c'est plus important pour moi. Petit trou de discussion. Et à la fin, je dis, bon, d'accord. Et alors là, chose surprenante, je n'ai pas dit bon, d'accord, par dépit. J'ai dit, bon, d'accord. Intéressant, on y va. Alors, qu'est-ce qui m'a fait changer d'avis ? J'ai pas failli être viré. Non, ce qui s'est passé au milieu, c'est juste une discussion en fait. Juste une discussion. Vous savez, avec mes développeurs, j'aime bien leur dire, bah tiens, je t'explique. Je mets pas de détails et on le fait en face à face. Et bien, avec les sponsors, pour expliquer la priorisation, le chemin, le plan, et bien en vrai, ça devrait être la même chose. On discute, on débat, on dit oui, non, pourquoi pas, etc. Et juste cette petite discussion, elle change tout. Elle change vraiment tout. Donc moi, je suis arrivé avec mes certitudes en mode, de toute façon, c'est moi qui vais décider. Peu importe notre discussion là, à la fin de la discussion, c'est moi qui décide. Et je suis arrivé là-dessus, mais vraiment sûr de moi. Et je vous assure que j'ai une sacrée détermination. C'est-à-dire que quand j'ai prévu de ne pas lâcher, ben je ne lâcherai pas. Et la personne très intelligente, au passage, et très sage, qui prend beaucoup de recul et qui dit, ben, qu'est-ce qui pourrait te faire changer d'avis? Pouf! Alors là, la question, qu'est-ce qui pourrait me faire changer d'avis? Ben rien en fait. Et dire, ah si, je suis sûr qu'il y a une chose qui pourrait te faire changer d'avis. Réfléchis un petit peu, qu'est-ce qui pourrait te faire changer d'avis? Dis-toi, tu as envie de commencer par ça, et moi j'ai envie de commencer par ça. Qu'est-ce qui pourrait te faire changer d'avis? Je dis, bah, ce qui pourrait me faire changer d'avis, c'est qu'on s'aperçoive qu'au final, ta vision des choses, ah, est la meilleure et que commencer par ce que toi tu proposes, ça apporterait plus de valeur métier, ou ça serait plus confortable, ou on pourrait avoir un espèce de ratio coût-gain qui soit supérieur, quelque chose comme ça. Des faits, quoi, un truc vraiment réel. Il dit, bah, ok, est-ce que tu peux envisager le fait d'étudier ma solution, parce qu'il dit, bah, toi, ce que tu as envie de commencer, tu l'as bien étudié, tu l'as bien cadré. Donc, maintenant, je vois que tu te positionnes de mon prisme, ok, en disant, moi, sponsor, là, pour le coup, c'était un contrôleur de gestion. Il dit, moi, contrôleur de gestion, j'ai aussi des attentes là-dessus. Je suis aussi un utilisateur, donc là, j'avais déjà appris ma leçon. Et j'ai dit, mets-toi à ma place. Juste mets-toi à ma place. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Je dis, oui, je suis d'accord, ça, c'est le plus important pour toi, mais toi, tu es tout seul. Et eux, là, ils sont 80. Donc, moi, je préfère couvrir le besoin des 80 avant toi tout seul. Il dit, ah, t'es encore en train d'essayer de me convaincre. Arrête d'essayer de me convaincre. Essaye juste de réfléchir de comment ça pourrait se passer différemment. Comment toi, tu pourrais être convaincu? En gros, ce qu'il m'a fait, c'est me remettre en question sur mes certitudes. C'est juste ce qu'il a fait. Il n'a pas essayé de me convaincre à aucun moment. Il a juste tapé là où ça fait mal. C'est-à-dire qu'il a posé la question de. Enfin, il n'a pas posé la question, il m'a demandé de me poser des questions. Comment moi je pouvais me convaincre que différemment ça allait être mieux. Et là, je me suis dit, bordel, une nuit se passe après tout ça, et je reviens le lendemain, mais ça a cogité dans la nuit. Et je me suis dit, en fait, c'est ça la posture. C'est ça la posture du product owner. C'est ça qu'on cherche. On cherche un product owner qui est capable de jamais avoir de certitude. On cherche un product owner qui est toujours en train de se remettre en question. D'essayer d'adopter le prisme des autres en disant, mais si lui, il avait raison, comment je pourrais changer d'avis? Qu'est-ce qui me ferait changer d'avis? Et je vous jure, cette question, elle trotte. Elle trotte régulièrement dans la tête. Elle trotte régulièrement dans la tête et je me dis, elle devrait trotter dans la tête de tous les product owners. Comment je pourrais changer d'avis? Je pourrais changer d'avis si je m'apercevais que ça. Eh bien, on va quand même aller le vérifier, ce ça-là, avant d'être sûr et de partir là-dedans. Et à chaque fois maintenant que j'essaye de prendre une. À chaque fois que je suis confronté à une grosse décision, avant d'arriver, je me pose la question de qu'est-ce qui me ferait changer d'avis. Et on va quand même aller explorer un petit peu, si j'ai le temps. Malheureusement, ça c'est un peu compliqué des fois. Mais d'aller explorer d'autres pistes, d'autres sentiers. Et le lendemain, je suis revenu en disant, bah, au final, ton histoire, elle n'est pas si bête que ça. Je me suis aperçu que. Et on s'est mis d'accord là-dessus. C'était vraiment, j'avais envie de changer. Je me suis dit, il m'a convaincu. Il m'a convaincu sans jamais essayer de me convaincre. Il m'a juste posé des questions, fait prendre du recul sur mes certitudes. Donc là, c'est le gros danger, en fait, quand vous êtes product owner, et je m'en suis aperçu, c'est d'être convaincu d'un truc. Parce qu'après, vous allez essayer de convaincre tout le monde que c'est bon. Vous êtes convaincu, vous allez essayer de convaincre tout le monde. S'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, vous allez essayer de le convaincre. Alors que le premier à essayer de remettre en question, c'est vous. Arrêtez de convaincre les gens. Si vous avez le bon choix, normalement, ça devrait le faire. Et si on vous dit, ben non, moi j'ai envie de commencer par là, et la stratégie là que j'énonçais précédemment, de dire c'est vous qui devez avoir la meilleure vision, donc c'est vous qui prenez la décision, non. Amenez juste la décision comme l'effet logique de dire j'ai étudié toutes les pistes, celle-ci, là, factuellement, est la meilleure parce que j'ai étudié les autres pistes. Regardez cette piste-là, cette piste-là, cette piste-là, cette piste-là. Maintenant, il y a celle-là. Celle-là, c'est la plus intéressante. J'ai pas besoin de vous convaincre. Juste, j'ai étudié un petit peu toutes les options. Et il y a le truc là, j'ai pris du recul. J'ai pas pris les décisions par une question de volonté ou autre chose comme ça. Et c'est pas moi qui décide. Ça se décide tout seul, en fait. C'est juste des faits. Alors, en vrai, il y a une stratégie. La stratégie, elle se décide. Mais la stratégie, à la limite, c'est même pas votre taf. Vous, on arrive avec un besoin, on peut vous pousser une stratégie. Après, au niveau opérationnel, vous débrouillez, mais la stratégie, ça se discute un petit peu plus haut. On se met d'accord là-dessus. La stratégie d'une entreprise, bah, moi, j'en suis pas à ce niveau-là aujourd'hui. Et du coup, bah, voilà, il suffit de juste réfléchir, de mettre le truc dessus. Si je devais refaire ça aujourd'hui, là, cette phrase, de dire bah, le product owner doit avoir les pleins pouvoirs, bah, cette phrase, elle sonne un peu dictatoriale, en vrai, plein pouvoir. Non, c'est une bêtise. Jamais vous devez faire un product ownership de manière dictatoriale. C'est pas ça la philosophie. La philosophie, c'est prenez du recul. Voilà. Le product owner doit prendre du recul sur la priorisation, tout le temps, sur lui-même. Et c'est lui qui a la meilleure proposition pour prendre du recul. Parce qu'il est au centre de tout ça. Il a une vision 360. Donc en fait, on va l'écouter. Parce que c'est lui qui est au centre et qui a pris du recul sur lui-même. Il n'y a pas besoin d'essayer de convaincre les gens. Juste si vous avez la bonne posture, on va vous écouter naturellement. Vous savez, des fois, il y a des gens comme ça dans les entreprises. On se dit, bah lui, quand il parle pas souvent, quand il parle, généralement, ça percute. Bah, en fait, c'est ça que j'essaie de devenir aujourd'hui. C'est-à-dire, j'essaie d'être juste. Et c'est comme ça qu'on va m'écouter. Plutôt que d'essayer de convaincre tout le monde que c'est moi qui ai la meilleure position pour prendre des décisions. J'ai pas la meilleure position pour prendre des décisions. J'ai une très bonne position pour voir plein de choses autour de moi. Mais ça s'arrête là. Moi, je vois les choses autour de moi. Et la décision, on la prend ensemble. OK. Allez, je continue. Celle-ci aussi, je l'adore. Et pour moi, elle est encore plus importante. Là, on part de la base de la base. C'est quoi? Un product owner, vous démarrez un truc là. Démarrez un nouveau projet. Il faut choisir un product owner. Et quand j'étais Scrum Master, je leur disais, vous avez deux choix. Soit vous prenez un expert métier. On fait un logiciel sur de la comptabilité. Ah, on prend un comptable. On le forme. On met un super Scrum Master à côté pour l'assister sur la partie développement logiciel. Et c'est lui le product owner. Alors, il faut qu'il ait de la dispo. On le forme à la partie logiciel, etc. On l'explique. On le coach. On le coach à 200%. Et hop, ça fait un super product owner, ça, ces personnes-là. Vraiment expert métier, formé au logiciel. Ou alors, on peut faire l'inverse. On prend un super expert du développement logiciel, un product owner issu du développement logiciel, et on le forme un petit peu à la compta, et on met des experts à portée de main. Alors, je sais pas si vous voyez, généralement, c'est la deuxième option qui est adoptée. La meilleure, moi, je la trouve meilleure. La première, je la trouve meilleure. Mais bon, j'ai une réelle préférence pour le premier choix. Ça m'est arrivé une fois d'avoir ça. Et moi, d'être Scrum Master d'un product owner qui était issu du métier, quoi. Et c'était très 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 intéressant. À côté de ça, oui, généralement, on fait la deuxième solution. Donc, on a des product owners qui travaillent sur de la compta. Ouais, j'ai fait ça. Et je suis pas comptable, je connais pas la comptabilité, j'ai tout découvert sur le tas. Donc ça, c'était pas facile. Hein. Il faut éclairer plein de son métier et on doit avoir des experts à portée de main. Donc voilà. Moi, quand je suis devenu product owner, là, sur la comptabilité. Ça, c'est mon expertise sur le développement logiciel. Et ça, c'est mon expertise sur la compta. Je me dis, bon, bah, on est dans la deuxième option. Il faut que j'ai, donc, avec moi, des experts métiers à portée de main. Et donc là, en bleu, c'est ma disponibilité. Et en orange, la disponibilité des experts métiers. Ça va pas, cette histoire. Ça va pas. Ce truc-là. Il est pas bon. La deuxième solution, là, les experts métiers sont jamais dispo. Ça marche pas, ce truc-là. Les experts métiers, là, si vous dites, ben, on met un product owner issu du développement logiciel, il connaît par cœur les équipes de développement, le Scrum, tout, il est à fond là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, le métier, il comprend rien, va falloir l'aider. Bah, tiens, hop, on prend René de la compta, tu vas l'assister. Non, René de la compta, il fait son métier à côté. Donc, il vous file quoi? 2 heures par semaine? On fait une réunion hebdo? Ça suffit pas. Ça suffit carrément pas. Donc là, cette histoire-là, elle est pas bonne. Donc la première, je pense toujours qu'elle est viable. Mais l'expert, là, il doit être formé. Vraiment, on le prend, on le met dans une salle avec un bon formateur, il y reste une semaine, et puis après, on y va tout doucement, tranquillement. On commence pas avec une équipe de 23 développeurs directs. Parce que sinon, on va le noyer et on y va tranquillement et c'est parti. Et dans la deuxième solution, je pense que l'idéal, ça serait de faire la même chose, de dire, on prend un expert métier et on demande à l'expert métier de nous coacher. Et là, c'est pareil, quoi. Il faut qu'il y ait une formation, il faut qu'on prenne genre une semaine ensemble pour qu'on discute, on comprenne toutes les facettes du métier, etc., tous ensemble, qu'on essaye de partager un lien et qu'on crée un lien de communication privilégié. Juste, doit être un expert logiciel avec des experts à portée de main. Non, à portée de main, ça marche pas. Impliquer, former, je sais pas, on pourrait trouver plein d'autres mots, mais il va falloir beaucoup plus que juste des experts métiers à portée de main. Celle-là, il marche pas. Voilà. Je l'ai appris sur le terrain. Et donc, quand on s'en rend compte, il faut changer. Il faut changer très rapidement parce que sinon, c'est la catastrophe. Allez, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Ça, c'est une phrase de Roman Pichler. Je ne sais pas comment ça se prononce. Every great product owner needs a great scrum master. Alors, je trouvais qu'en anglais, elle parlait plus qu'en français. Mais en gros, tout bon product owner doit avoir un bon scrum master à côté de lui. Ce que ça veut dire, ça, c'est que vous avez besoin d'un scrum master. C'est pas juste... Un Scrum Master, c'est là, oui, on prend un développeur, tu feras Scrum Master en même temps. Moi, quand j'enseignais là, l'agilité, je dis, un Scrum Master, c'est essentiel. Sans lui, ça va pas bien marcher. Vous allez manquer de performance. Vous allez pas prendre assez de recul. Lui, il est là pour vous apporter la performance, le recul. Mais je parle pas d'un Scrum Master qui fait les actions de rétro et puis qui met à jour les graphes. Hein. Je parle d'un Scrum Master qui fait du coaching au product owner, qui fait du coaching à l'organisation, qui fait du coaching au développeur, qui vous pose des questions, qui prend du recul. Pas celui qui vient au délire en animant le truc. Non, non, non. Un vrai Scrum Master qui va dire, mais est-ce que vous êtes sûr que là, on pourrait pas faire plus facile comme solution? Vous êtes tous d'accord? Est-ce que tout va bien dans l'équipe? Des vraies questions comme ça, là. Des trucs qui percutent. Est-ce que tout va bien dans l'équipe? Est-ce que je vais bien? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que nous, ensemble, équipe, nous allons dire... Enfin bref, un Scrum Master, quoi, comme j'aimais l'être. Et ça, c'est essentiel dans une équipe. Et surtout sur des tailles d'équipe où vous atteignez 10, 12 personnes, ou des fois même 2, 3, 4 équipes. Et non, là, il y a besoin, en fait, d'un facilitateur, quelqu'un qui vous fait prendre du recul, quelqu'un qui vous challenge, quelqu'un qui vous booste, quelqu'un qui vous recadre, aussi un petit peu de temps en temps. Ça, c'est essentiel. Ça ne marchera pas sans ça. Et devinez quoi aujourd'hui? J'ai pas de Scrum Master. Il n'y en a pas. Alors, chose assez étonnante, la première raison, c'est que je suis arrivé dans une équipe qui était déjà construite et il n'y en avait pas. Deuxième chose, c'est qu'on m'a dit, tiens, je te donne les clés de l'équipe et ça, c'est l'enveloppe annuelle. Donc, c'est moi qui ai le budget. Alors, première chose, c'est la première fois que ça m'est arrivé. Donc, je dois gérer le budget de mon truc. Sauf que ça coûte cher, en fait, les gens. Je me suis rendu compte que j'étais loin des ordres de grandeur que je pensais. Et il dit, si tu veux un Scrum Master, il faut que tu enlèves un développeur. Ah. Ouais, yeux fermés. Je dis, je vais le faire. Sauf que malin, je dis, je viens d'arriver. Je ne vais pas le faire tout de suite, quoi, parce que je ne vais pas juste arriver et tout péter. Quoi. Ça va peut-être pas passer. Ça. Si j'arrive et que je dégage quelqu'un de l'équipe, ça ne va pas marcher. Quoi. Donc, j'arrive et puis au bout de 2 mois, je me dis, c'était peut-être le temps, quoi. Bon, j'avais personne à virer. Donc, je me dis, si je peux pas virer quelqu'un et que je peux pas recruter quelqu'un, je vais pas avoir de Scrum Master. Je me suis dit, je vais en former un. Super. Qui c'est qui veut être formé? Personne. Ah. Et en vrai, on m'a dit, pourquoi tu veux un Scrum Master? Je dis, c'est vrai ça. Donc, je répète tous les arguments que j'avais eu avant. Je dis, il y a tous ces arguments-là. Il dit, et si on prenait du recul collectivement? Oui, ça pourrait passer. Et est-ce qu'on a besoin là? Qu'est-ce qui marche mal? Peut-être qu'on pourrait faire ça mieux. Faisons-le mieux. Et en fait, je me suis aperçu que cette équipe, elle était capable d'avoir une prise de recul qui était peut-être acceptable. Je pense que ça marcherait mieux avec un Scrum Master. Mais j'ai l'impression que c'est acceptable en l'état. Et ça marche. Et on a des bons résultats. Et tout le monde, il est content. Alors, on a décidé de laisser comme ça. Alors, en vrai, je ne recommanderais pas à une équipe de commencer comme ça. Mais en rythme de croisière, c'est pas mal. si on y arrive, si on a un niveau de maturité suffisant. Et là encore, qui je suis pour juger mon niveau de maturité d'équipe? J'en sais rien. Il faudrait quelqu'un de l'extérieur qui vienne là-dessus pour prendre du recul, parce que moi, je suis pas capable d'avoir ce recul-là. On est vraiment la tête dans le guidon, quoi. Mais ça peut marcher. Ça pourrait marcher mieux, mais ça marche suffisamment. Donc, je me suis arrêté là. Et là, c'était peut-être la règle numéro un que j'enseignais avant. C'est-à-dire qu'on fait des formations, on enseigne à des Scrum Masters et on vous leur dit, c'est vous, vous êtes indispensable, rendez-vous indispensable. C'est vous l'huile de rouage qui permet que tout fonctionne bien dans cette équipe. Et puis là, on dit, bah, il n'y en a pas, bon, c'est pas grave. Bah, si, c'est grave quand même. Mais je sais ce que je risque si je ne l'ai pas. Et c'est ça, en fait, la clé. C'est-à-dire que si je n'ai pas de Scrum Master, je sais ce que je risque. Je risque une baisse de performance, je risque une mauvaise cohésion, je risque comment ça s'appelle? Je pourrais améliorer avec un Scrum Master, je pourrais améliorer mes communications dans l'équipe et entre l'équipe et puis le reste de l'organisation. Et tout ça, je sais que je risque de pas avoir le manière optimum. Donc, je vais bien le surveiller. C'est-à-dire, je sais ce que je risque. Donc, je vérifie que je tombe pas en plein dans le panneau et que ce risque, il est bien couvert par autre chose. Cette prise de recul, on l'a fait un peu plus conséquemment parce que je sais qu'on n'a pas quelqu'un à l'extérieur. Quelqu'un qui a ce rôle, en fait, de prendre du recul sur l'équipe. Et, bah voilà, on connaît le risque, on le monite de près, et on arrive à s'en sortir comme ça. Et c'est un petit peu ça, la conclusion de tout ça. S'il y a trois choses à retenir de tout ça, c'est en un, la démarche-là. Ce que j'ai fait, moi, je vous recommande à tous de le faire. Je pense que j'ai plus appris là, moi, que n'importe qui dans la salle, parce que c'était sur moi. C'est-à-dire qu'on va auto-inspecter ses croyances et on va auto-inspecter ses pratiques. Et ensuite, on met le lien entre les deux là. C'était super chouette de faire ça. C'est-à-dire que je croyais ça et en fait, je fais ça et on tire un trait en mode qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui m'a fait changer d'avis? C'est ça que je vous ai raconté en fait. Je vous ai raconté là, pendant 50 minutes, je vous ai raconté qu'est-ce qui m'a fait changer d'avis. Et ça, c'est super intéressant. Et là, je vous invite là, tous à soit noter vos croyances. Soit vous ressortez le papier d'il y a 2 ans, vous aviez noté de vos croyances, et qu'est-ce que vous croyez encore, qu'est-ce que vous croyez plus, et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Et si vous le racontez ça à quelqu'un, je vous assure, ça va être passionnant. Parce que ça, c'est super intéressant comme récit. Donc cette démarche-là que j'ai fait, c'est peut-être ça le truc le plus sympa, au-delà de l'histoire qui était... Enfin, moi, j'aime bien raconter tout ça, mais encore une fois, qui je suis pour raconter ça, bah, c'est pas une leçon ou quoi que ce soit, ça a marché dans mon contexte, avec mon truc, mais tout ça, c'est tellement complexe. Par contre, il y a une chose qui est immuable, c'est cette démarche. Cette démarche d'auto-inspection, elle est vraiment génialissime. Donc allez-y, replongez-vous 2 ans, 3 ans en arrière. Qu'est-ce que je faisais il y a 3 ans? À quoi je croyais? Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi ça a changé? Ça, super bien. Deuxième chose, product owner, c'est complexe. J'ai remis la phrase du Scrum Guide là. Je vous épargne la prononciation anglaise. Et nous découvrons, vous la connaissez celle-là, là? Vous savez, le Scrum Guide, il y a 4 valeurs, il y a 12 principes, et tout en haut, il y a une petite phrase qui dit, nous découvrons comment mieux développer des logiciels par la pratique et en aide aux autres à se faire. Et voyez là le mot pratique. C'est ça qui me manquait, en fait. Moi, j'avais la théorie. Et une fois que j'ai découvert par la pratique, eh ben, ça s'est mieux arrangé. J'ai juste découvert, en fait. C'est vraiment ça. C'est de l'exploration. On découvre. On découvre. Troisième chose et dernière, si vous faites ça, il faut bien être conscient des risques. Vous changez quelque chose par rapport à la théorie, soyez conscient du risque que vous prenez. C'est-à-dire, j'ai pas de Scrum Master, je sais ce que je risque, j'y fais gaffe. J'ai plus de 100 éléments dans mon backlog, c'est un risque, je connais ce risque, j'y fais gaffe. Si vous prenez directement la deuxième étape, vous risquez d'avoir des problèmes parce que vous n'allez pas bien connaître le risque qu'il y a à faire ça. Donc encore une fois, tout ça, c'est une progression. Ce qui est intéressant, c'est d'abord respecter, entre guillemets, la théorie et ensuite de la changer sur le tas par la pratique. De découvrir par la pratique comment mieux faire. Et en fait, voilà. C'est tout. Merci.